Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Laurel et Hardy, première partie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Laurel a dit donc première partie, il mérite bien deux émissions. En fait, pour chaque émission, dans la préparation, j'essaie de voir ou de revoir les films de chaque artiste. Or, en faisant cela pour Laurel et Hardy, j'ai réalisé qu'il y avait une filmographie impressionnante. Ils ont, comme Chaplin, débuté au temps du muet, avec des films de durée réduite, mais c'était la norme à l'époque. Donc, comme pour Chaplin, il y a l'originalité. Chaplin, donc, c'est une dimension sociale, une dimension plus sérieuse, alors que Laurel et Hardy s'est fondé sur un humour de répétition, sur une sorte de destruction de ce qui peut se situer autour d'eux. Donc j'ai parlé de Chaplin, écoutez, pour le plaisir, on va écouter la musique des temps modernes, Chaplin des temps modernes. Thank you. Commençons par citer un auteur qui a écrit à plusieurs reprises sur le duo. Voilà ce qu'il dit. Laurel et Hardy, c'est l'un des mythes les plus universels du cinéma. Ils ont dépassé en popularité Charlot et Mickey. Ils ont construit une véritable saga fondée sur des catastrophes en chaîne, nées de leur maladresse. Hardy comprend toujours trop tard et Laurel ne comprend jamais. Ils sont immortels. Autre opposition, le gros et le maigre. Le gros, c'est Hardy. Dans le gros, par opposition au maigre, il faut l'avoir vu tout en fossette, agitant sa cravate, s'efforcer avec des grâces pachydermiques d'arranger les gaffes de son compère. Et pour Laurel donc, n'hésitons pas à le dire, Laurel fut l'égal d'un Chaplin, de Keaton, d'Harold Lloyd, avec Hardy, il dépasse. Et donc, dernière remarque sur les films de Max Sennett, qui étaient des films de poursuite permanente, en contraste avec l'agitation frénétique des films de Max Sennett, qui raffolaient des voitures, des poursuites de voitures, Laurel et Hardy jouent sur une certaine lenteur de l'action et une réserve dans l'expression physique. L'action repose sur la progression dans la dévastation et le carnage. Donc, ça vous donne déjà une idée de cette situation. Alors, des duos, c'est vrai qu'on n'en manque pas au cinéma. Il y a des couples célèbres comme homme-femme, Fred Astaire, Jean Rogers, comme duo plus comique, Dean Martin, Jerry Lewis. Et vous avez à l'heure actuelle, en France, les frères Dardenne. Vous avez, là, c'est original, Larry et Andy Wachowski, qui sont devenus Lana et Lily, c'est deux réalisateurs donc, qui sont devenus transsexuels. Les frères Cohen, Joel et Ethan. On a aussi récemment Frédéric et Valentin Potier pour un film en 2024, les prodigieuses. Enfin, on peut citer en France les deux frères Denis et Bruno Podalides, le premier étant seulement comédien et jamais réalisateur. Il est à la Comédie Française. Et l'autre, donc, réalisant des films avec parfois un rôle important dans ces films, parfois le premier rôle. Alors, pour revenir sur ce duo, certains ont dit donc duo de génie, le duo de référence. Alors, on peut comparer avec d'autres types d'humour. Vous aviez à l'époque aussi les Marx Brothers, qui étaient trois. Bon, avant, il y en avait plusieurs, mais certains ont quitté. Donc, Marx Brothers, trois. Qui vont démolir complètement l'habitude cinématographique. Ils vont jouer sur la rapidité du comique, donc rapidité du rythme des gags, omniprésence d'une parole quasi hystérique, notamment Groucho, hein, qui est toujours en train de parler. Alors Laurel et Hardy vont fonder leur jeu sur trois caractères complémentaires, on peut dire ça. Donc il y a une lenteur dans le développement d'une situation. Donc là, c'est l'opposition Marx Brothers. On a la volonté de mettre en place une situation de manière progressive jusqu'à ce qu'on arrive à des erreurs et un dommage qui va être subi. Caractère visuel de leur gag. Donc on a effectivement non plus cette discussion, cette parole, mais vraiment le caractère visuel. On a une montée de gag et ce serait la troisième caractéristique, c'est le crescendo. On a une situation où ils vont s'enferrer eux-mêmes dans une activité et arriver à tout détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Parfois, ils font du bricolage, ils font du ramonage d'électricité. On sent que la situation va déraper, on attend. Et bien sûr, elle dérape, elle se dégrade et on a ce fameux crescendo jusqu'à arriver parfois à une destruction totale d'un appartement, d'une voiture ou d'une maison. Donc Laurel et Hardy entraînaient autrefois les écadrilles de spectateurs. Aujourd'hui, il y a des analyses parfois intellectuelles, notamment systématiquement, est-ce qu'il y a une homosexualité latente chez Laurel et Hardy ? Bon, ça paraît difficile d'affirmer. On décortique aussi les paliers de la montée en crescendo. Bon, à ça, on peut opposer une vision directe et simple. On voit le spectateur qui ne se prend pas la tête et qui va rire devant ses actions du haut, donc véritable, je dirais, funambule du rire, qui vont être chaque fois au bord de la catastrophe, l'écarter, puis retomber dans celle-ci. Alors, on a, pour Laurel et Hardy, un thème qui revient régulièrement, et on va écouter ce thème, donc, qui est joué au piano. Donc, Laurel et Hardy, le thème au piano. Vous pouvez hésiter sur la portée de ce duo et sa place dans le cinéma, puisqu'aujourd'hui, on va y revenir, il y a une moindre connaissance ou pas de connaissance du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette émission. Donc, dans les histoires du cinéma, dans les dictionnaires, on a une admiration pour ce duo. Alors, je vais citer encore arbitrairement certains textes. Alors, c'est peut-être un peu long, mais ça donne une idée. Donc, il y a « Ils furent le couple traditionnel du gros et du maigre, du bourru et du timide. À la frénésie des Marx Brothers, ils opposèrent à quelque temps un ralenti comique avec tant de pauses et de réflexions dans les bagarres et dans les destructions. Ensuite, le maigre timide et lunaire Laurel offraient un contraste psychologiquement viable avec le gros vaniteux et terre-à-terre Hardy. Le premier, Laurel, était une victime raffinée, le second, un bourreau omnipotent, mais son maire avec une nuance fugitive de mélancolie. Ensuite, il porte un point de perfection, un style comique fondé sur le contraste entre les extrêmes qui n'a jamais été égalé depuis. Notre rire naît surtout de l'intéressante et torturante frustration qu'éprouve Hardy, personnage pédant, policé ou obèse, face à un Laurel famélique et d'une incommensurable incompétence. Ils ne sont jamais plus drôles que lorsqu'après un clin d'œil, un petit hochement sec du menton, ils unissent leurs forces pour démolir la maison ou la voiture d'un troisième larron. Alors, il cite James Nielsen, qui est un acteur qui revient systématiquement dans leur film. Dernière citation, « Leurs personnages ont atteint à une sorte d'immortalité. Promouvant la destruction à l'égal d'un des beaux-arts, ils créent à eux seuls un mythe des plus vivants sur toute l'histoire du cinéma. » Il dévoile comme personne d'autre la face cauchemardesque du quotidien et la folie latente de l'homme. Donc, vous voyez, on voit réapparaître ici l'idée de destruction, l'idée d'opposition entre Laurel qui va faire un certain nombre de bêtises et Hardy qui va essayer de le rattraper. Donc, humour universel, rire pour le monde entier, surtout à l'époque du muet, où il était plus facile de faire rire sur l'action et non pas sur le langage, bien sûr. Alors, une question que je me pose, c'est quelle est la connaissance aujourd'hui de Laurel et Hardy par diverses tranches de la population ? Alors, on peut dire que pour les plus vieux, si on monte à 80-90 ans, c'est peut-être un peu loin, mais il y a une connaissance de Laurel et Hardy. Ils l'ont vu parfois à la télévision, puisque des films ont été rediffusés beaucoup dans les années 60-70. Donc la vision, au départ, c'est quand même un petit peu plus loin. Donc les films les ont fait rire et les font rire encore quand ils les revoient. Par contre, alors là, les plus jeunes, je dirais en dessous d'une quarantaine d'années, n'ont jamais vu un de leurs films, ont entendu parler de ce duo. Ils connaissent parfois vaguement le nom ou ne le connaissent pas, mais ne vont pas identifier physiquement les deux personnages. Donc Laurel, pour simplifier, le maigre, et Hardy, le gros. Donc la difficulté ici, et le but que je pourrais m'assigner, c'est de conduire les plus anciens à voir ou revoir des films afin de se rendre compte s'ils sont encore sensibles à leur humour, et pour les plus jeunes, voir si leur humour est totalement étranger à leur approche. Donc, difficulté, encore une fois, pour les plus jeunes, le choix n'est pas évident, puisqu'il y a des films muets, et certains n'aiment pas vraiment le film muet. Donc, insensibilité totale à leur type d'humour, ou fou rire progressif suivant le crescendo, on peut hésiter. Il y a aussi le fait que le spectateur va rire plus souvent dans la salle que lorsqu'il est seul devant son écran de portable ou de téléphone. S'il est seul, bien évidemment, il ne peut pas être immergé dans le film et ne peut pas suivre autant qu'en salle la montée du gag sur la durée avec ce crescendo systématique pendant lequel il n'y a pas d'interruption et où cette violence va manquer. Alors je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'il y a un dessin animé qui est apparu dans la télévision fin années 60 et ce même dessin animé qui est apparu dans les années 70 en France. C'est en fait une série, donc quelques films de quelques minutes, où on a un générique qui apparaît aux États-Unis et en France, avec donc la même musique, mais bien sûr des paroles différentes. If we're with us, then we're a we, and we are both of us necessarily. We are both our very own, and both is never alone. Speaking strictly logically, you will be happy to know. I've heard that safety in numbers, and it's so. Logically or smogically, you carry half of the dough. So wherever you are there, I'll be something to go. That's right. If I'm with you and you're with me, then we will never be individually. You're with me and I'm with you, so one together is two.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy,
c'est toi le gros
et toi le petit.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Shakespeare,
Lamartine,
qu'est-ce qui sort par la cheminée?
Le Père Noël,
idiot, c'est la fumée.
C'est la fumée.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Lorsque j'ai une bonne idée, je suis toujours contrarié. Tu ne veux pas m'écouter, tu es bouté.
Lorsque t'as une bonne idée, je suis toujours très inquiet. Si je te laisse la réaliser, dans quel pétrin tu nous mets?
c'est moi Laurel.
C'est moi Hardy.
C'est toi le gros.
Et toi le petit.
C'est moi Laurel.
C'est moi Hardy.
Et nous sommes de bons amis.
Tu nous as encore mis dans un joli pétrin.
Mais c'est pas ma faute. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy.
C'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy. Et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit. Toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit. Nous sommes Laurel et Hardy.
Quand j'ai fait une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer. Parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vu te pardonner, je ne suis pas rancunier.
C'est moi Laurel.
C'est moi Hardy.
C'est toi le gros.
Et toi le petit.
C'est moi Laurel.
C'est moi Hardy. Et nous sommes de bons amis.
Alors, je vais revenir tout à l'heure sur la stupidité du doublage avec cet accent bizarre qui a marqué tout le doublage des films de Laurel et Hardy et qu'on retrouve dans cette série de dessins animés. Alors, soyons clairs, hein, le dessin animé, c'est une catastrophe. Alors, ce n'est pas seulement Laurel et Hardy qui ont été modifiés, transformés. Il y a eu aussi Tom et Jerry, Bugs Bunny, Bip Bip, Le Coyote, qui ont été dénaturés. Les véritables dessins animés, ce sera les années 40, 50, début années 60. Et ensuite, on reprend pour la télévision avec vraiment quelque chose qui est catastrophique et nul. Cependant, pour les personnes qui auraient à peu près 60 ans aujourd'hui, il y a un petit côté Madeleine de Proust, même si c'est très mauvais, ils ne s'en apercevaient pas sur le moment. Et s'ils écoutent aujourd'hui, ça leur fait donc cet effet de Madeleine de Proust. Ah oui, je réalise qu'il faut peut-être une précision ici. De nombreux lycéens sont plus gavés de fake news que de littérature classique. Alors, parenthèse culturelle, hein, pour une fois, parenthèse littéraire. Qu'est-ce que c'est que la Madeleine de Proust ? Elle apparaît dans Du côté de chez Swann, premier volume de La recherche du temps perdu. Hein, vous savez qu'il y a des qualificatifs pour l'œuvre d'ensemble, Comédie humaine, Balzac, Rougon-Macquart pour Zola, une vingtaine de bouquins. Donc, qu'est-ce que c'est que la Madeleine de Proust ? C'est le souvenir d'enfance qui réapparaît en trempant une Madeleine dans le thé. Alors, je vous donne l'extrait, comme ça vous aurez une sorte d'initiation en dehors de Laurel et Hardy à Proust. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût de thé et de gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. C'est un goût qui correspondait au petit morceau de madeleine que ma tante m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé. C'est quand j'y ai goûté que le passé ancien a réapparu. Ainsi, on peut dire qu'après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules vont subsister des odeurs et des saveurs comme l'immense édifice du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût de morceaux de la madeleine trempés dans le tilleul, je vis aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était la chambre, puis un décor de théâtre apparu avec s'appliquant au pavillon, donnant sur le jardin, avec la maison, la ville, les rues et les bonnes gens du village et l'église et tout cela qui est sorti de ma tasse de thé. Donc, pour reprendre Laurel et Hardy, c'est vrai que ces dessins animés étaient nuls, mais ça peut rappeler des souvenirs à ceux qui les ont vus à ce moment-là. Alors, le duo est véritablement célèbre, à tel point qu'on oublie les réalisateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, on tient compte fortement des réalisateurs, des films, autant que des acteurs. À cette époque-là, c'est l'acteur qui est roi. Et les réalisateurs n'ont aucune importance. Quand on voit aujourd'hui un film de Laurel et Hardy, on ne pense pas qu'il y a une quinzaine qui ont été faites avec James Parrott, une dizaine avec James W. Horn, une demi-douzaine avec Clyde Brugman. Donc tout cela est ignoré, on n'y fait pas attention. Alors, la rencontre de Laurel et Hardy, à quel moment vont-ils se rencontrer ? Alors déjà, avant leur rencontre, ils tournent déjà, mais chacun de leur côté. Laurel a un père impresario, il est en Angleterre, il va appartenir à une compagnie qui s'appelle Cardo, et il va faire une tournée aux États-Unis. Et alors, dans cette compagnie, il va travailler avec Chaplin, dont il aurait été la doublure à certains moments. Il fait du cinéma à partir de 1917. Donc, il s'installe aux États-Unis, alors qu'il est originaire d'Angleterre, comme Chaplin. Hardy, lui, est né aux États-Unis. Il pratique le chant et il va se lancer au cinéma à partir de 1913. Donc, les deux compères se rencontrent à l'époque du cinéma muet. Ils vont jouer dans plusieurs films séparément, parfois même sans même avoir une scène ensemble, puis former un duo dans lequel, d'ailleurs, les acteurs vont endosser le nom de leur personnage, puis on passera au duo formé définitivement. Laurel et Hardy, dit parfois Holly, vont collaborer pendant plus de 30 ans sur une centaine de films. Alors, le nombre peut surprendre, mais il faut apporter deux précisions, notamment sur le cinéma muet. Que ce soit Chaplin ou d'autres, on a une durée qu'on dit deux bobines. Deux bobines, c'est 10 minutes. Donc, une bobine, c'est 10 minutes, deux bobines, 20 minutes, logiquement, bien sûr. Si vous regardez Chaplin, on dit des courts-métrages, non. Dans les années 10, c'est la durée normale. Donc, que ce soit Chaplin ou Laurel et Hardy, ils vont tourner des dizaines de films. Et cette périodicité, c'est le deuxième élément, va être régulière. On va dénombrer des dizaines de films de Charlot, de John Ford et de Laurel et Hardy parce qu'on tourne un film par mois. Donc, un film par mois, c'est deux bobines qui apparaissent et qui vont donc permettre au public aujourd'hui de penser qu'en réalité, ce sont des courts-métrages, alors qu'en réalité, il s'agissait de longs-métrages. Alors, je prends parfois au hasard des musiques de Laurel et Hardy. Il y a un film qui est célèbre, Laurel et Hardy au Far West, et il chante à un moment donné une chanson avec tout d'un coup un dérapage, parce que les deux chanteurs, Laurel et Hardy, tout d'un coup, Laurel va avoir un chant aigu. Hardy lui met un coup de maillet sur la tête. Et là, ce sera encore plus aigu. Il tombe à la fin. C'est pour vous donner déjà une idée des gags qui peuvent apparaître. Le fait que Laurel, tout d'un coup, devient bizarre. Hardy essaie de calmer ça en lui tapant sur la tête. Et il chantera de manière beaucoup plus aiguë. Voilà le morceau.
Yeah, I wonder if it'd be all right if for our closing, if I were to sneak over and do a little duet with Brent.
That'd be fun.
Think I'll try? Let's try.
The mountains, I'm blue like the pine. I am lonesome for you.
In the blue ridge mountains of Virginia, on the trail of the lonesome
her name, and I carved mine.
Oh, dear, like the mountains, I'm blue, like the pine. I'm lonesome for you.
In the blue ridge mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the blue ridge mountains of Virginia, on the trail.
Wonderful to be with you. I hope all of you live 1,000 years and we never die. Thank you very much. Good night.
Premier film en commun, donc, s'appelle Le Vénard. Alors, on voit une rencontre entre les personnages dans les histoires du cinéma. Et j'ai revu le film avant en préparant l'émission. On a une rencontre courte et une rencontre un peu plus longue. Donc là, manière dont les historiens du cinéma parlent de Laurel et Hardy, on dit que dans Le Vénard, ils vont se croiser dans la rue. Alors effectivement, Laurel est avec un chien sur les bras, Hardy est un voleur qui braque un revolver sur lui. Laurel attoure le chien dans les bras et il va lever une main en tenant le chien, puis inverser le chien et la main. Puis met le chien dans les bras d'Hardy qui va poser le chien. Laurel veut le récupérer, Hardy l'en empêche. Donc on a déjà une forme de fonctionnement du duo où l'absurde apparaît. La dernière scène du film, on voit toujours pareil Hardy le voleur qui va braquer un revolver sur Laurel. Il y a un gag récurrent parce que le revolver ne veut pas tirer quand Hardy vise Laurel et le coup part quand il ne vise plus. Donc c'est déjà un ressort comique qui peut correspondre au mode de fonctionnement postérieur du duo, même si effectivement ça reste très particulier et très limité. Alors les deux acteurs vont se retrouver un peu plus tard en 1926, et là ils font des seconds rôles dans divers films, peu importe les noms, Scandale à Hollywood, En plein milieu, et ils vont arriver au premier film dans lequel le duo est formé et ils vont jouer sur leur vrai nom, c'est Laurel et Hardy à l'âge de pierre, donc tout un programme, mai 1927. Donc on ne peut pas citer tous les films, toutes ces deux bobines, puisqu'il y en a des dizaines. Alors une précision sur cet accent anglais ridicule, puisque depuis le début, ils ont un accent anglais ridicule, et on retrouve ça dans le dessin animé. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers films parlants, qui sortaient dans le monde entier, bien sûr, les gens ne pouvaient pas les comprendre, puisque la langue leur était étrangère. À l'époque, la technique du doublage n'était pas au point, donc on faisait parfois, c'est les deux solutions, deux films séparés, ça veut dire qu'on avait un film américain, puis à côté, on tournait dans les mêmes décors, les mêmes scènes avec d'autres personnages. Donc, on a parfois des versions, trois ou quatre versions du même film. Et l'autre élément, ce sera le doublage. Alors, le doublage, pour Laurel et Hardy, ils vont se doubler eux-mêmes. Et donc, ils lisent en général les panneaux sur lesquels le test est écrit. Et ils vont avoir un accent qui correspond à leur accent, qui n'est pas bien sûr un accent français, mais un accent américain de ceux qui parlent français, ou un accent anglais, c'est un petit peu intermédiaire entre les deux. Donc quand la période des années, début des années 30, disparaît, que film est véritablement parlant, on a gardé cet accent, ce qui fait que Laurel et Hardy continue à manifester par un accent caricatural. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les dessins animés vont demeurer. Alors, les compères vont souvent chanter une chanson dans un film. C'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Et on le retrouvera plus tard dans la deuxième partie de l'émission où on verra le mode de fonctionnement du couple et la manière dont ils avaient de tourner, avec d'ailleurs un Laurel qui dirigeait les choses, alors qu'Hardy était plus un acteur exécutant. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Grégor. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.